I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 633 du podcast Jeune Actuel à Matéi. Très heureux de vous retrouver pour votre dose quotidienne de NFL. On peut dire ça, en fait, je cherchais un truc à dire au début des émissions depuis quelques jours, mais en fait, on est quotidien maintenant. Bonjour Victor Roulier.
Eh bien, bonjour Alain, bonjour à tous.
Parce qu'avant, je disais votre dose hebdomadaire de NFL, mais voilà.
Oui, non, on peut dire quotidien. On n'en est plus là, on n'en est plus là.
Ça y est, on est quotidien hein, à partir de cette année. J'ai même envie de dire, ouais, il manque le lundi, c'est les replays du fauteuil, mais ça marche quand même. Ouais, ça marche, oui. On va dire que ça marche. Comment ça va, Victor, après cette deuxième semaine?
Bah écoute, ça va bien. Ça va bien. Deuxième semaine défensive, hein, on va y venir.
Oui, mais, c'est vrai.
Mais oui, oui, ça va très bien.
C'est vrai. On va parler des Jets, alors plutôt en souffrance pour le coup au niveau de la défense, mais des Cowboys en confiance. Le meilleur et le pire de la semaine 2 avec beaucoup de défense, c'est évidemment maintenant. Mais avant de démarrer, on vous rappelle que nos émissions du mois de septembre vous sont présentées par 6play. Vous vivez la saison régulière sur 6play tous les dimanches à 19h. Une affiche NFL en direct et gratuitement sur 6play, l'appli 6play, 6play.fr, les applis 6play sur Android TV, Apple TV et Fire Stick. Depuis la deuxième semaine et pour le match de la troisième semaine, ce sera un joli Patriots-Jets rivalité de division. On ne s'en lasse jamais des rivalités de division. Mais avant ça, on va commencer justement en parlant des Jets.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Comment les Jets allaient-ils s'en sortir sans Aaron Rodgers? C'était forcément une des curiosités de cette deuxième semaine de NFL. Comme Dallas, la réponse a été nette. Pas bien du tout, et pas forcément là où on l'attendait. Les Cowboys ont dominé des deux côtés du terrain. Ils ont mené tout le match, 18-10 à la pause, 24-10 dans le troisième quart. Et Victor, la petite surprise, c'est que c'est la défense qui a aussi souffert. Symboliquement, Dak Prescott a quand même réussi ses 13 premières passes.
Oui. Oui, après, l'attaque des Cowboys, c'est quand même pas la pire attaque de l'histoire.
Non, mais les Jets prétendaient avoir une des meilleures défenses de l'histoire, donc...
Oui, ouais, il y a un ou deux joueurs qu'on peut dire ça. Je pense qu'en effet, la ligne défensive a été bien maintenue par la ligne offensive de Dallas. Après, voilà, la défense des Jets est pas exempte de tout reproche. Mais j'irai plus voir sur l'attaque des Jets et les pertes de balles pour expliquer la défaite, mais bon.
Alors, on va... allons-y là-dessus. Alors, est-ce que c'est pas quand même parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, la défense de Dallas a sûrement été la meilleure défense du jour. 2 sacs pour Micah Parsons, 3 au total pour son équipe, 3 interceptions, un fumble recouvert par Micah Parsons. Encore une fois, avant de parler de l'attaque des Jets, on peut quand même dire que la défense de Dallas, c'est aussi du top top niveau.
Ah bah ils ont pris 10 points en 2 matchs. Bon, bah à partir de ce moment-là déjà, tu peux quand même faire difficilement mieux. Non, cette attaque est superbement coachée par Dan Quinn. Cette attaque, elle a celui qui est aujourd'hui un défenseur de l'année en puissance, qui est Micah Parsons. Et on va dire que tout le monde monte en niveau. On avait un petit doute au niveau de defensive tackle. On a Odigizuwa qui commence vraiment à trouver sa pleine puissance. Lui qui est sophomore, si je ne dis pas de bêtises. En couverture aérienne, ça fait de travail. Enfin, vraiment, cette équipe, elle est bien coachée, elle est pleine de talent. Donc oui, la défense de Dallas doit être mise évidemment en avant.
L'attaque des Jets, donc, Zach Wilson a-t-il été... On va faire les systèmes de notes sur 10. Tiens, on a fait ça dans la première mission, ça me plaît bien. Parce que tu as parlé de ballon perdu. Bah, il en a perdu 3 avec les interceptions. Et Dalvin Cook en a perdu 1 avec un fumble.
Ouais, bah, Zach Wilson, il faut le changer tout de suite, quoi.
Ah, merci.
Moi, je préfère voir Carson Wentz que Zach Wilson. Hein. Je suis désolé.
Ah oui, t'annonces même le recrutement avec
toi. Ah ben, j'ai dit, j'avais annoncé, comme c'est Joe Douglas, GM, j'ai dit Carson Wentz en semaine 5.
Disons que le plancher est aussi bas, mais le plafond est beaucoup plus haut.
Ouais, enfin, Zach Wilson, Dieu sait que j'ai adoré hein, à BYU, mais le fait est que tout ce qu'il nous montre de semaine en NFL n'est pas rassurant. Il y a des gens qui ont essayé de te le vendre la semaine dernière parce que la NFL,
merci.
Non mais la NFL a dû dire aux journalistes, les gars, on a 5 prime time games à vendre avec Zach Wilson. Ouais, il faudrait que vous y mettiez du vôtre.
Moi, c'est un des trucs qui m'a pas particulièrement interpellé la semaine dernière parce que bon, que les supporters essayent de se convaincre que Zach Wilson est une solution, pourquoi pas. Les supporters, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais que des médias US, j'avoue que j'étais un peu... Je traversais la semaine dernière comme ça et je voyais des trucs passer. Zach Wilson peut faire une grande saison, c'est le moment de prouver. Et j'ai lu, je suis passé sur une comparaison et je veux dire, la NFL tient pas quand même un flingue sur la tête des journalistes qui ne sont pas dans son réseau en l'occurrence. Et je vois passer un article, le Brock Purdy de cette année, il est peut-être sous nos yeux, c'est Zach Wilson. Et alors là, je savais même pas si c'était pas pour rire en fait le papier. C'était parce que sur le coup, moi je me dis, attendez, on parle du même mec qui il y a 4 jours j'ai vu courir 25 yards en arrière pour se débarrasser d'un ballon. Et en plus, je trouve que la comparaison est étrange au sens où si tu compares à Brock Purdy, tu prends Kyle Shanahan aussi dans l'équation. Mmh. Et lui là, Nathaniel Hackett. Tu vois, donc je me disais, est-ce que c'est le même Nathaniel Hackett qui coachait les Broncos l'an dernier et l'attaque des Broncos? Ah ok, donc là on est en train de comparer un mec dont on a vu depuis 2 ans qu'il n'est pas bon et un coach dont on a vu l'an dernier qu'il n'était pas bon à Brock Purdy et Kyle Shanahan. Ok, bon. Il y a zéro surprise, il lance 3 interceptions, il n'est pas bon, il va avoir des flashs. Alors tous les quarterbacks NFL ont des flashs, hein, laissez-moi tranquille avec « Oh, il a fait une bonne passe », mais dans l'ensemble il n'est pas bon, qu'on ne refasse pas le… Moi je veux juste pas qu'on retombe dans le Jameis Winston façon « Ouais, mais quand il lance pas des interceptions, vous voyez, il est bon quand même ». Non, il n'est pas bon.
Enfin, Jameis Winston, il lançait 30 touchdowns et 5 milliards.
Ah non, mais alors attention, intrinsèquement, Jameis Winston est même meilleur que Zach Wilson.
Largement,
c'est dire où on en est. Donc je sais pas si on peut… moi, je tomberais pas dans le truc dans lequel sont tombés certains journalistes. Je peux comprendre l'argument hein, de dire c'est une faute professionnelle de pas avoir blindé le banc derrière Aaron Rodgers parce que Zach Wilson, voilà. Je peux comprendre qu'il l'ait laissé en se disant il va apprendre, etc. Tu peux pas prévoir que Rodgers va se faire le tendon d'Achille en première semaine. Mais le fait est que du coup, ils sont de retour à la case départ. Ça va être la même année que l'an dernier. Ils vont gagner 6, 7, 8 matchs quand la défense les sauvera. Et de temps en temps, il y a 2-3 matchs où Zach Wilson sera correct et on dira « Ah, oh, peut-être que ça y est », etc. Mais je pense pas qu'il faut que Aaron Rodgers se chauffe trop à cette idée de jouer les playoffs parce que je suis vraiment pas sûr. Je vois pas vraiment, surtout dans la division. Tu vois, même quand les Patriots sont mal en point, c'est pas bon de jouer 2 fois les Patriots quand t'as Zach Wilson. Les Dolphins sont chauds, les Bills sont bons. À la limite, tu peux te dire, il y a 2-3 équipes qui ont mal commencé en AFC, mais je vois pas du tout comment ils accrochent.
Non, mais le problème, en plus, il est plus large. C'est qu'on avait dit que le talon d'Achille, sans mauvais jeu de mots du coup, mais de cette équipe, c'était la ligne offensive. Et la ligne offensive, elle sous-performe sur les 2 premières semaines, c'est assez évident. Quand tu vois, alors d'accord, c'est les Cowboys en face, mais je veux dire, quand tu regardes Breece Hall, 4 courses, 9 yards, Dalvin Cook, 4 courses, 7 yards. Michael Carter, 2 courses, 8 yards. Enfin, le meilleur coureur de l'équipe, c'est Zach Wilson avec 36 yards. Il n'y a personne d'autre qui a plus de 9 yards. 9 yards, c'est le maximum derrière Zach Wilson. Donc, il faut aussi dire que cette ligne offensive, elle est complètement à la ramasse.
Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il n'est pas dans des bonnes conditions, encore une fois. Mais ce ne sera pas une excuse, c'est pas un bon quarterback. Parce qu'il y a la moitié des lignes NFL aujourd'hui, en fait. Il n'y a pas assez de bons linemen.
Je ne dis pas que c'est une excuse, je dis que c'est cumulatif.
Voilà, non mais c'est cumulatif. Mais ce ne sera pas une excuse. C'est pas, ah oui, mais si la ligne était meilleure, etc. Il y a la moitié des lignes NFL qui sont correctes, voire pas bonnes, parce qu'il n'y a pas assez de bons tackles et tout ça en NFL. Donc voilà, il y a des mecs qui se débrouillent avec plus. Et de toute façon, c'est assez simple. Il y a un des coachs pendant la semaine qui dit « Ouais, on a dû couper la moitié du cahier de jeu, le simplifier, etc. » Et le mec lance 3 interceptions quand même, et ça fait 2 ans qu'il est là. Donc, à partir du moment où un coach dit publiquement qu'ils ont dû simplifier le cahier de jeu pour un mec qui est là depuis 2 ans, de toute façon, tu sais où ils en sont. Et c'est pas comme s'il avait signé la semaine dernière pour remplacer Rodgers, il était là au camp d'entraînement. Donc, c'est quoi? Tu vois, faut simplifier le carnet de jeu. Mais attendez, donc non, ils sont dedans. Et donc on a eu un débat interne. Il faut le dire, Raphaël Masmejean, quand on a fait la conf de rédac, disait pourquoi vous mettez ce match en avant, parce qu'en fait on a eu ce qu'on attendait. Il a pas tort. Mais mon postulat, c'était, on était quand même curieux de voir de ce que ça donnait sans Aaron Rodgers. Et la réponse est que, en effet, on mettra probablement moins les matchs des Jets en avant à partir de la semaine prochaine. Mais voilà, c'était un peu le champ du cygne. On va revenir quand même, Victor, à Dallas et à l'attaque, parce qu'on est passé vite sur l'attaque de Dallas. Je voulais quand même en dire un mot. 134 yards au sol, 255 dans les airs, 42 minutes de possession, 6 dilemmes à 143 yards. Pour le coup, c'est vraiment une attaque qui a ronronné, mais vraiment dans le bon sens du terme, quoi. Ils étaient très très fluides.
Mais en fait, la défense fait tellement qu'ils n'ont pas besoin d'en faire trop. Et du coup, ils déroulent juste le leur jeu. Alors, il y a peut-être quelques inquiétudes, on y reviendra, spoiler, dans l'émission de jeudi. Mais malgré tout, oui, c'est une équipe qui, pour l'instant, n'a pas été testée offensivement parce que l'attaque n'avait pas besoin de prendre des risques. À partir du moment où tu as le match en main et que tu mènes de 14-17 points, bah, tu contrôles ce match et c'est tout.
On passe aux Patriots, 17, Dolphins 24, match dominé mais pas écrasé par Miami. Les Dolphins menaient 17-3 à la pause, les Patriots sont revenus. Raheem Mostert les a terrassés avec une course de touchdown de 43 yards. Ils ont gagné au sol et en défense, j'ai l'impression. Victor, est-ce qu'ils ont montré qu'ils peuvent tout faire?
Oui. Je pense que, en fait, c'était une des grosses inquiétudes qu'on avait. C'était les jours où l'attaque aérienne est moins bonne étant avec de grosses guillemets, parce que par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, c'est-à-dire qu'on parle de la meilleure attaque aérienne de la ligue, on se disait le jeu au sol, c'est toujours un peu le parent pauvre, etc. Bah là, le jeu au sol, il est venu sauver, entre guillemets, cette équipe, et Mostert, quand il est dans des grands jours, ça passe, donc très encourageant, oui.
Ouais, très 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 bon match, tu le disais. Raheem Mostert, 121 yards, 2 touchdowns en 18 courses. Tua Tagovailoa, 21 sur 30, 249 yards, 1 touchdown, 1 interception. En défense, 4 sacs, 2 ballons volés, 88 yards seulement au sol pour les Patriots. Qu'est-ce qui manque à cette attaque de New England? Du réalisme, parce qu'ils ont fait des erreurs, mais ils ont quand même bougé un peu le ballon.
Il manque du talent. Il manque du talent, c'est-à-dire que c'est bien coaché, hein. Bill O'Brien, ça reste un coordinateur offensif pour moi largement suffisant pour le niveau NFL. Ça manque de talent au niveau des receveurs, ça manque de talent au niveau des lignes, ça manque de talent au niveau des running backs, ça manque de talent au niveau des quarterbacks. Tu peux essayer tout ce que tu veux, à un moment, c'est des limitations que tu auras toujours. Et ils sont pas catastrophiques dans les deux matchs qu'ils jouent, là, Eagles-Dolphins. Ils sont juste moins bons que les bonnes équipes. Voilà, c'est à un moment le talent fait la différence.
Ouais, non mais clairement, tu sens que voilà, ils sont pas, ça va même mieux au niveau du coaching avec en attaque avec Bill O'Brien, etc. Mais il manque voilà un petit truc comme ça. Ils ont bien limité Tyreek Hill. Encore une fois, ils sont toujours bien coachés en défense. Ils sont à 0 victoire, 2 défaites pour la première fois depuis Victor Quiz.
2001. Ouais.
Et pas l'Odyssée de l'espace, mais l'année du titre. 0-2. Et ils avaient gagné leur premier
contre des Rams, oui.
Ouais, bon, on va pas vous faire croire qu'on a le même niveau d'espoir.
Après, voilà, l'ambiance était un peu différente avec la blessure, etc.
C'est ça, c'est l'année donc blessure de Rubledzo, Tom Brady qui prend le relais. L'équivalent de battre les Rams, pour eux, là, ce serait de remonter et de battre les Chiefs au Super Bowl.
Ah bah oui. Je dirais que les Rams, c'était peut-être encore plus dominant mais... que les Chiefs, oui. En tout cas, cette année. Relatif par ailleurs. Mais,
ah bah oui, il y avait encore plus de matos en attaque, hein, pour le coup. Alors, Kurt Warner n'était pas au niveau de Patrick Mahomes, attention. Hein, mais,
ce serait mais, venir écraser les Niners au Super Bowl, parce que par définition, ils ne pourront pas affronter les Chiefs au Super Bowl. Donc,
ah bah oui, je suis bête.
Ce serait affronter les Niners et exploser les Niners. C'est exploser la défense des Niners qui est censée être. Voilà. Mais là, tu rêves un peu, je pense.
Oui, non, là, je ça va être compliqué. Bills 38, Raiders 10. Buffalo a couru 183 yards au sol. Ça a franchement facilité la tâche de Josh Allen, qui a signé un propre 31 sur 37, 274 yards, 3 touchdowns, aucune interception. Match parfait offensivement, j'ai envie de dire. Ça y est, ils ont le modèle à suivre. Un peu plus de sol, enfin.
Ouais, alors, modèle à suivre, parce que t'as fait un bon match contre ta défense de Las Vegas. Prudence quand même, hein, restons mesurés. Mais en tout cas, après ce match un peu catastrophe face aux Jets, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, ils ont produit des yards, ils ont impliqué tout le monde. Toi qui souvent, comment dirais-je, tape un peu sur Gabe Davis, tu vois, même lui a fait son match.
Je lui en veux d'avoir plombé ma fantaisie l'an dernier, en fait. Hein,
je
pense qu'il y a un biais personnel. Pendant des années, les gens m'ont dit « tu dois avoir un biais si tu supportes une équipe », mais j'ai découvert depuis l'an dernier que c'est la fantaisie qui me crée des biais.
Oui, non, mais je comprends. Mais voilà, je pense que, oui, ils ont fait le travail. C'était très bien fait. Après, à voir ce que ça donnera contre des grosses équipes.
Ça reste en effet un échantillon un peu plus limité. Après, bon, les Raiders avaient gagné leur premier match.
Je dis pas que c'est une équipe affreuse. Je dis juste que je pense toujours que défensivement, sur l'année, les Raiders, ça sera bottom, enfin, ça sera dans les cinq dernières défenses de la ligue.
Alors après, là où ils ont été très mauvais aussi cette semaine, c'est en attaque, parce que le jeu au sol a énormément souffert. Il y a une course de Trey Tucker pour 34 yards, mais si t'enlèves cette course-là, il y a Zamir White qui a 4 courses pour 22 yards, et surtout Josh Jacobs qui est à 9 courses pour moins de yards. C'est-à-dire que je sais même pas du coup comment ça s'est goupillé. Il a une meilleure course à 3 yards, donc ça veut dire il nous faut un statisticien là pour nous dire sur combien de courses en moyenne il a reculé ou quel est son gain moyen. Voilà, son gain moyen c'est 0,2 yards. Je suis bête, je l'ai sous les yeux. Moins 0,2 yards, ouais, c'est ça. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, c'est comme s'il avait pris le ballon, tu vois, si on lui a transmis et qu'il est tombé par terre tout de suite.
Bah, je l'ai dans ma fantaisie et j'ai gagné quand même, si ça c'est pas beau.
C'est-à-dire que s'ils avaient pris un joueur qui faisait un AVC au moment où on lui met le ballon dans les mains, il aurait gagné plus de yards en tombant en avant, peut-être.
C'est ça. non, mais écoute, incompréhensible.
La stat ESPN, Josh Jacobs moins efficace qu'un joueur mort d'un AVC.
Non, mais après, il a quand même 51 yards en réception, si on veut être tout à fait honnête avec lui.
C'est vrai.
Non, j'ai pas compris cette performance offensive de Las Vegas. Garoppolo a pas fait un bon match. Bon, on découvre pas que Garoppolo, il a des semaines avec et des semaines sans. Mais la base de ton jeu, ta soupape de sécurité, tout ça, c'est censé être jeu de course. Et en fait, là, ni la ligne, ni les coureurs ne semblaient être vraiment en adéquation. Donc, très, très étonnant, performance. Alors là encore, on n'est jamais que sur les premières semaines de septembre. Tu peux plaider l'accident, tu vois. Mais c'est vrai que c'était pas beau, ça c'est clair.
Oui, c'était compliqué. Tu l'as dit, Jimmy Garoppolo fait pas un bon match. Bon, après, encore une fois, comme tout s'écroule autour de lui, c'était très très compliqué. Titans 27, Chargers 24 après prolongation. Les Chargers qui pouvaient aller gagner ce match en fin de quatrième quart, mais Justin Herbert saqué sur troisième tentative. Ils se sont contentés d'un field goal pour la prolongation. En prolongation, trois passes incomplètes pour lui. Les Titans, eux, quand même, ont récupéré le ballon pour inscrire le field goal de la gagne. Ça fait deux défaites en ouverture pour les Chargers. Est-ce que Brandon Staley commence à avoir chaud pour son poste?
Ah ben moi je suis pour qu'on le vire depuis le milieu de la saison dernière, alors c'est pas à moi qu'il faut demander. Par contre, tu vois, j'ai toujours pas compris comment les Chargers ont perdu ce match. Pourtant j'ai vu en direct, hein. Direct et en entier.
C'est généralement le résumé d'à peu près beaucoup de matchs des Chargers.
Alors ils ont autant de yards, il n'y a pas de perte de balle, alors c'est vrai que c'est très similaire, mais
Attends, c'est toi qui as fait le résumé ?
Non.
Parce que j'allais dire, on aurait pu titrer directement le résumé. Je n'ai pas compris pourquoi les Chargers ont perdu ce match. Ça pourrait être marrant.
J'avais Cardinals Giants en double écran. C'est te dire.
Monsieur est gourmet.
Ah bah, moi j'aime le football, monsieur. Mais voilà, donc je sais pas. Je sais pas. On peut pas dire qu'offensivement ça ait mal fonctionné. Alors oui, l'absence d'Ekeler a fait du mal. Au sens où bah c'est difficile de remplacer un joueur aussi électrisant et aussi polyvalent. Donc c'est sûr que le jeu de course n'a pas répondu. Après voilà, ils ont quand même le match en main, ils ont je sais plus 10 points d'avance, j'ai perdu le fil ou quelque chose comme ça. Et juste comme d'habitude, ils se plantent. C'est assez incompréhensible, c'est mal coaché, c'est défensivement friable. C'est mentalement friable. J'ai une stat qui peut te plaire. Les Chargers sont à 21-10 avec Justin Herbert quand il mène dans le quatrième carton. Et 10 défaites alors que tu mènes dans le quatrième carton, c'est le plus haut niveau que tu puisses voir en NFL depuis 2020. Et ils sont à 2-5 en overtime. Alors je dis pas que c'est tout de la faute d'Herbert. Hein. C'est évidemment ils prennent Herbert parce que c'est quarterback starter. Mais ça veut aussi dire que oui, il y a un problème profond de coaching de cette équipe. Et il y a un problème de, on rajoute, on investit dans la défense avec des grosses acquisitions comme JC Jackson, etc. La réalité, c'est que c'est toujours aussi mauvais. Tu peux pas prendre 27 points contre cette attaque des Titans qui était même pas capable de mettre un pied devant l'autre contre les Saints. Non, là, les Chargers, pour moi, c'est inquiétude maximum.
Ouais, c'est quand même en effet très très compliqué. L'absence de Steen Eckler s'est quand même fait sentir, hein, tu le disais, pas de jeu au sol. C'est pas une grande équipe de Tennessee en face non plus, c'est aussi pour ça je suppose que ça ajoute à ton incompréhension, mais propre. C'est-à-dire qu'on a remis Ryan Tannehill dans des conditions propres.
Tannehill a fait le match le plus Tannehill qui soit. C'est-à-dire, tu regardes le match, t'es là, bof, bof. Bof, sur chaque passe, bof. Et à la fin, tu te dis, bah, il a fait 20 sur 24, 246 yards et un touchdown. Franchement, statistiquement, tu peux pas faire beaucoup mieux. Mais bon, après, ils ont joué simple et ça a marché, quoi.
Ouais, il a deux passes un peu plus longues qui gonflent un peu les stats, mais ils sont extrêmement prudents. C'est du Titans, quoi. Tu disais c'est du Tannehill, mais j'ai l'impression que c'est du Titans. C'est une équipe qui reste dans les matchs grâce à ses fondamentaux. Il y a 3 sacks, 141 yards au sol, pas de ballon perdu, 3 sur 4 dans la red zone. Tu sens qu'ils n'ont aucune marge, en fait.
Non, aucune. C'est ça. Je te dis, c'est un match très bizarre.
On enchaîne avec les Steelers 26, Browns 22. C'était un des deux matchs du lundi. J'avais pas souvenir qu'il y avait deux matchs du lundi en semaine 2. Je sais que ça se faisait en semaine 1.
Si, l'année dernière en semaine 2. Parce que il y avait Eagles Vikings et je me souviens que il me semble que je fais le résumé des Bills en même temps. Donc si, il y en avait deux.
Très bien, j'ai rien dit. Donc, victoire des Pittsburgh Steelers grâce largement à leur défense qui a inscrit 2 touchdowns dans ce match. Tout à l'heure, tu disais on peut faire difficilement mieux que les 10 points gagnés par la défense de Dallas en 2 semaines. Ben voilà, les Steelers, ils ont fait 14 points en une soirée. Interception retournée par un touchdown dans le premier quart-temps pour ouvrir le score. Et fumble retourné pour un touchdown par TJ Watt dans le dernier quart pour aller arracher la victoire. Une défaite des Browns qui plus est marquée en plus par la blessure sérieuse au genou de Nick Chubb, tellement sérieuse que sa saison est terminée malheureusement. On rappelle pour ceux qui ne le savaient pas qu'il s'était déjà déchiré les ligaments du même genou gauche lorsqu'il était à la fac, il en était revenu. Là en tout cas ça va être très très dur et c'est une grosse perte pour Cleveland. Victor, est-ce qu'on te met sur le banc des accusés, on dit expliquez-vous monsieur après avoir fait des Browns le favori pour la FC Nord dans votre émission de preview de la semaine dernière, que s'est-il passé?
J'avais mis un point d'interrogation. Pas au bon endroit, mais j'ai mis un point d'interrogation. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, ils ont perdu leur meilleur joueur. Ça aide pas. Et puis, Deshaun Watson a fait n'importe quoi. Voilà.
C'est peut-être ça, un peu, si je peux me permettre, le point faible de votre argumentation sur les Browns titulaires favoris, c'était que Watson reste quand même un mystère, et tu le dis, 22 sur 40, 235 yards, un touchdown, une interception.
Et deux fumbles perdus.
et de fumbles perdus. Ça reste une équipe qui dépend avant tout de son jeu au sol. Tu le disais bien, Chubb, il est à 64 yards en 10 courses. On parlait des moyennes tout à l'heure. Lui, ça fait 6,4 yards par course, hein, quand il court. C'était pas Josh Jacobs hier.
Ouais, après, mais honnêtement,
on sort bien. Hein.
Sur un match,
ouais,
il a été largement bien remplacé par Jerome Ford. Hein. 16 ouais, courses, ouais. 106 yards. Et il marque même le touchdown à la réception. Sur ce match-là, c'est pas l'absence de Chubb hein, qui les fait perdre. C'est la performance ignoble de Deshaun Watson. Hein.
Et malheureusement, encore une fois, ça reste une inconnue. Et combien de temps, j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines, combien de temps on lui laisse le bénéfice du doute?
Bah, il a 5 ans totalement garanti, donc t'as encore le temps de voir venir. Hein.
Oh la vache, c'est vrai que oui, en fait, il n'y a pas vraiment le choix de lui laisser le bénéfice du doute ou pas.
T'es obligé de garder jusqu'à au moins 2025 compris.
Oh, oh la vache. Ah ouais, c'est violent. Bon, c'est violent. Du côté des Steelers, donc je le disais, bon, la défense c'est exceptionnel, il n'y a plus de mots. Enfin, en tout cas, TJ Watt est un des plus grands joueurs de l'histoire. Alors, de Pittsburgh, c'est fait. 81,5 sacs. Il est devenu le meilleur sackeur de l'histoire de la franchise. Et ce qui est dingo, on remercie Marco qui a mis la stat sur le chat de la rédaction. James Harrison était l'ancien détenteur du record. Il avait réussi 80,5 sacs en 177 matchs. Et Watt est à 81 sacs et demi en 89 matchs. C'est délirant.
Ouais, j'ai eu peur que tu dises meilleur joueur de l'histoire, parce qu'il y a 2-3 défenseurs, dont Minjo Green, qui oui, pour moi sont peut-être un peu dessus. Mais meilleur pass rusher, si tu veux.
Ouais.
Mais d'ailleurs, on peut mettre en lumière le duo, parce que Highsmith, on a connu 1 million de joueurs qui ont mal digéré de signer leur premier gros contrat. Bah, Highsmith, il n'a pas eu de mal à digérer. Hein. Quel match, lui aussi, puisqu'il y a l'interception, il y a le fumble. Enfin, c'est vraiment un très, très, très gros match, une grosse défense. Et j'ai envie de dire, heureusement que la défense était là, hein, parce que l'attaque des Browns était mauvaise. Mais alors, c'est des Steelers, à part une longue passe, un éclair dans la nuit, c'était tout aussi catastrophique.
Oui, oui. Je vais y arriver, je suis ralenti aujourd'hui. Kenny Pickett, en effet, était à 15/30, 222 yards, un touchdown, une interception. Il y a cette longue passe de 71 yards pour George Pickens dont tu parles, mais on parlait d'être dubitatif sur l'ami de Sean Watson, l'ami évidemment étant très ironique. Kenny Pickett, il va falloir quand même passer la seconde à un moment. Ça a été dur contre San Francisco déjà en première semaine, ça l'est encore. Ils ont perdu Diontae Johnson pour au moins 4 semaines, il est sur la liste des blessés.
Ouais, mais c'est dur pour tout le monde, en fait. La ligne, on pensait qu'elle s'était renforcée, mais en fait, non. Pickett, on pensait qu'il avait mûri, mais en fait, non. Najee Harris, on pensait qu'il avait fait, qu'il s'était débloqué, mais en fait, non. Moi, je reste persuadé que l'erreur principale des Steelers est d'avoir conservé Matt Canada, coordinateur offensif. Ça marchait pas l'année dernière, et ça marche pas non plus cette année. Donc, moi, je suis désolé, je suis peut-être un peu trop à m'enflammer ou quoi, mais je pense que si cette équipe veut avoir une chance de faire quelque chose, il faut un électrochoc, et l'électrochoc, c'est de virer Canada. Même si on est qu'en semaine 2, j'en ai rien à faire. Il y a un moment, ouais, il faut qu'il y ait un électrochoc, il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que on peut pas regarder cette attaque. Il y a du talent, hein, dans cette attaque. On peut pas regarder cette attaque être aussi moribonde toute la saison.
C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On va marquer une petite pause et on revient pour la suite des débriefs.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
On enchaîne avec le match entre les Falcons et les Packers, 25-24 pour Atlanta. Les Falcons qui ont été menés quasiment tout le match, sauf qu'ils ont collé un 13-0 à Green Bay dans le dernier quart, dont un field goal à 57 secondes de la fin pour passer devant. Bijan Robinson était en mode superstar, 19 courses pour 124 yards. Il a aussi capté 4 ballons pour 48 yards et non, pas de touchdown pour Bijan Robinson, pardon. Est-ce que ça va être tenable quand même très longtemps Victor, ce rythme, Desmond Ridder a passé plus de ballons, hein, 19 sur 32, 237 yards, un touchdown, une interception, mais voilà, ça reste quand même un quarterback très limité. Est-ce que la recette Bijan Robinson à fond, ça peut marcher encore longtemps? En tout cas, là, ça a marché.
Tu te souviens de ma prédiction folle au Hard Rock Café?
Tu me mets une colle, j'ai un doute.
Bijan Robinson qui est rookie offensif de l'année et joueur offensif de l'année. Ah, on y va, oui. On y va, monsieur. Non, alors, qu'on soit clair. Desmond Ridder, sur le papier, ses stats sont pas catastrophiques. Sur le terrain, si vous avez regardé le match, c'était pénible. Pénible à voir. Il y a des lancers en red zone, surtout en red zone, où tu ne sais pas qui il vise, tu ne sais pas ce qu'il fait, tu ne sais pas ce qu'il voit, tu as envie de t'arracher les cheveux. Pourtant, Desmond Ridder, enfin, en soi, je l'aimais bien à Cincinnati, l'université. Mais là, il est perdu. Il est perdu. Mmh. Et globalement, je pense que n'importe quel quarterback moyen aurait fait un meilleur match que ça statistiquement. Parce qu'il y avait des joueurs libres. Parce qu'il y avait des opportunités, même en red zone. Et là, alors, les Falcons ont gagné. Tant mieux pour eux. Grâce à leur identité qui est le jeu au sol, tant mieux pour eux. Ils ont montré qu'ils ont quand même changé de mentalité parce que pendant des années c'était eux qui se faisaient avoir au quatrième quart-temps en menant de 10 points, là ils ont fait inverse. Mais honnêtement, moi je suis chaud, je sais pas pourquoi cette semaine, mais j'ai envie de voir Tyler Heinicke, quoi. Tyler Heinicke, il a montré avec les McLaurin et Dodson qu'il était capable de faire des choses. Alors bien sûr, c'est pas Byzance, hein. Mais déjà, je pense que ça donnerait un peu plus de vie au jeu aérien.
Et puis, c'est pas honteux quand même de dire... Enfin, tu vois, c'est pas un mec qu'ils ont choisi numéro 1 de la draft, quoi. C'est un choix du troisième tour.
Oui, bien sûr. Pas, non, mais...
C'est pas déshonorant, quoi, de dire... on a quand même des joueurs, là, qui jouent bien, des Robinson. On a Drake London, on a regarde, Kyle Pitts, de réception pour 15 yards, quoi.
Alors, Drake London, ça allait mieux dans ce match. Derek London, fait 70 yards, un touchdown, un truc comme ça. Mais oui, Kyle Pitts, c'est toujours... Et Kyle Pitts, il y a une ou deux fois où je te jure qu'il était vraiment, vraiment libre. Il s'est fait un peu voler ses ballons. Mais tu vois, là, il y a quand même un enchaînement à venir Détroit-Jacksonville, qui vont être deux matchs, on va dire, équilibrés. C'est pas des matchs perdus sur papier, mais enfin, ça va être des matchs pas faciles. Bah, il y a un moment, il va falloir qu'il montre des signes de vie, parce que sinon, je te dis, il y a un moment où ils vont pas le garder ad vitam. Hein.
Ouais, ça commence.
Mais encore une fois, ça n'enlève rien au fait qu'ils sont à 2-0, qu'ils ont une équipe très complète, très bonne au sol, avec une défense qui est en réel progrès. Donc, il y a beaucoup de raisons de se réjouir. Il y a un point d'interrogation qui est Desmond Ridder.
C'est ça. Et au bout d'un moment, il va peut-être les limiter s'ils veulent viser dans les playoffs alors qu'ils sont à 2-0. Je sais pas. L'espoir, c'est qu'il continue à grandir, mais ça reste un joueur quand même très très énigmatique à mon sens. Pour pas dire plus, les Packers sont complètement calés en fin de match. Est-ce que ça reste pour autant un mauvais match pour Jordan Love? Il lance 3 touchdowns. Il fait pas d'erreur. Il manque beaucoup beaucoup de monde autour de lui. Hein. Il leur manque quand même Aaron Jones, Christian Watson, David Bakhtiari. Il y a Ecton Jenkins qui se blesse aussi sur la ligne. Enfin, c'est très très compliqué quand même là, sans tout ce monde là. Et pourtant, il limite la casse quand même. Ils étaient dedans.
Oui, 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 il fait 3 touchdowns, 0 interception, il est bon à la majorité du match. Alors oui, il lui a peut-être manqué ce supplément d'âme en fin de match, tout ce que tu veux. Mais tu l'as toi-même rappelé, hein, privé de quand même de nombreux titulaires offensifs. À un moment, il a fait ce qu'il a pu, il peut pas non plus tenir le monde sur ses épaules. Il a été bon à la majorité du match et il n'est pas la raison pour laquelle il perd. Donc je pense que ça reste un match globalement positif pour lui. Par contre, oui, la blessure de Aaron Jones, ça fait très très mal parce que le facteur X de cette équipe, le dynamiteur, le tout ce que tu veux, bah, c'est Jones, quoi.
Ouais, clairement, sans lui, c'était beaucoup plus compliqué. Buccaneers, 27 Bears, 17 et 2-0 pour les Buccaneers également, avec un Baker Mayfield. Ah, j'ai vu déjà un petit haussement de sourcil. Baker Mayfield est à 26 sur 34, 317 yards, un touchdown, aucune interception. Mike Evans a brillé, 6 réceptions, 171 yards, un touchdown. Evans qui a donné un avantage de 10 points à son équipe dans le troisième quart. Et puis c'est Shaq Barrett qui a tué la partie avec une interception retournée pour un touchdown dans le dernier quart. Est-ce qu'on a sous-estimé Tampa, Victor?
Non. Alors pour le coup,
le coup de froid. Non, ils sont nuls.
Pour le coup, je l'ai bien vu ce match puisque tu me l'as donné. Je te rappelle un résumé à 19h. Non, c'est pas les Buccaneers qui ont gagné, c'est les Bears qui ont perdu. Ce qui est totalement différent. C'est-à-dire que, non, mais je veux dire, globalement, Mayfield, il a fait un match correct. Il avait un peu ce fighting spirit, comme on aime le voir. Il a trouvé Mike Evans. En même temps, c'était difficile de pas trouver vu qu'il y avait 10 mètres autour de Mike Evans sans personne. Et la défense a fait le travail. Mais j'irai pas dire que c'est un grand match de l'attaque des Buccaneers. On va y venir, mais pour moi, c'est surtout une disaster class, puisqu'on a le droit de dire. On a le droit de dire masterclass, on peut dire l'inverse. Des Bears. Les Bears sont en perdition et c'était pénible à voir, pénible.
Bon, c'est vrai que ça souffre du côté de Justin Fields. 16 sur 29, 211 yards, un touchdown, deux interceptions. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Il est très irrégulier, il y a des éclairs de génie, il y a des trous d'air, il y a deux interceptions pour finir le match surtout.
Non, il n'y a même plus d'éclairs de génie.
J'allais dire, c'est des choses qui peut plus se permettre. Ce serait sa saison rookie, ce serait ses premiers matchs, ça passerait encore. Mais là, on commence à entrer dans la zone où c'est impardonnable.
Non, moi, j'ai perdu patience, c'est bon. C'est bon. Vraiment, il m'a. Non, il est nul. Enfin, il y a un moment, faut arrêter. Je veux dire, il y a zéro progression depuis l'année dernière. Il court même plus. Hein, il fait 3 yards hein, à la course dans ce match. Donc, c'est même plus une double menace. C'est même plus une menace tout court. Il a fait un nombre de mauvais lancers cataclysmiques. Et alors, à chaque fois, on lui trouvait des excuses. C'est sa ligne. C'est ses receveurs. C'est ses machins. C'est ses trucs. Cette année, il a une meilleure ligne. Il a des bons receveurs. Et il arrive quand même pas à en faire quelque chose. Donc il y a un moment, le problème c'est lui, quoi. Enfin honnêtement, et après le coaching n'aide pas, mais il y a quand même ce moment incroyable où ils font une screen, donc ils sont à 5 yards de end zone, donc ils font une screen pass qui est rappelée pour faute. Ils font la même screen pass qui est rappelée pour faute, et ils font la troisième fois la même screen pass encore, et du coup interception de Shaquille Barrett et pick six. Mais il y a un moment, en effet, tu peux pas lancer trois fois la même action. Enfin, c'est d'amateurisme à un moment, c'est pas possible. Donc, il y a tout, en fait. Enfin, Fields, pour moi, est à côté, et Berfus est à côté. Enfin, là, on est, tu vois, pour avoir vu et résumé les Cardinals et les Bears, là, demain, tu me mets un Cardinals-Bears, je te jure que le favori, pour moi, c'est les Cardinals.
Ok.
Les Bears, c'est affreux, affreux.
J'ai envie de dire sur un bon jour ils peuvent, tu vois, mais
oui, non, mais ils peuvent faire 200 yards de Justin Fields au sol, mais bon.
Est-ce que quand même, je veux pas qu'on dise quand même qu'on a dévalorisé la performance là de Tampa Bay. Est-ce que quand même, puisque tu dis oui, Tampa, c'est les Bears qui perdent, etc. Je te trouve un peu dur quand même. Moi, j'aimerais bien revenir sur eux. Ils jouent quand même avec des vétérans. Et je trouve qu'il ne faut pas sous-estimer les vétérans. Mine de rien, leur défense, alors oui, en face, ce n'est pas fou, mais ils vont chercher 6 sacs, Vita Vea est bon. En attaque, on l'a dit, Baker Mayfield, il peut tenir, il joue au niveau de ce qu'il y a autour de lui, mais c'est un peu l'échelle d'Alex Smith actuelle, c'est un peu Baker Mayfield quasiment. Mike Evans, Chris Godwin, Rashad White, je trouve qu'il y a du matos, même en défense, c'est Shaq Barrett qui finit le match. Franchement, quand je demandais si on avait sous-estimé, moi je trouve un peu quand même. C'est-à-dire qu'ils sont à 2-0, ils vont pas aller gagner le titre. Je te dis pas forcément qu'ils seront en play-off et tout, mais c'est une équipe qui va en embêter d'autres, quoi. Là, le calendrier va se durcir. Hein. Eagles, Saints, Lions dans la foulée, Falcons, Bills, ça va être raide. Donc, mais tu vois, je suis pas sûr que ce soit totalement le cataclysme post-Brady, reconstruction totale.
Non, mais c'est pas. Bah, d'ailleurs, moi, j'avais fait la pastille des Buccaneers, je les avais mis quasiment à l'équilibre. Hein. Donc, j'avais pas prévu non plus une explosion. Ils ont des playmakers en défense, ils ont des playmakers en attaque. On peut dire qu'ils ont pas de quarterback, on peut dire qu'ils ont un effectif avec des trous, mais ils ont plus de playmakers que la moitié des équipes de cette ligue. Et Mike Evans, quand même, on sait que Mike Evans, il marche un peu à l'affect. On l'avait vu l'année dernière, hein, quand il avait plus envie, c'était un peu compliqué. Là, en tout cas, il a l'air de s'entendre avec Mayfield, hein, parce qu'il a l'air d'avoir envie, en tout cas. Donc, c'est plutôt encourageant pour eux.
Cardinals 28, Giants 31. Les Giants qui s'en sortent miraculeusement après avoir été menés 20-0 à la pause. Ils ont égalisé à 28 partout avec un peu moins de 5 minutes à jouer avant de réussir un stop et le field goal de la victoire. Ils n'ont même pas eu besoin de prolongation. 17-0 pour les Giants dans le dernier quart. Ils ont eu très chaud. Est-ce qu'ils sont enfin réveillés, Victor, ou est-ce qu'ils s'en sortent miraculeusement? On précise, Saquon Barkley en torse de la cheville, 3 semaines d'absence a priori.
Écoute, pour l'avenir, je sais pas, parce qu'en effet, de tête, ils vont faire Niners, Seahawks, Dolphins, Bees. Mais
cet homme connaît les calendriers par cœur, c'est incroyable. J'ai vérifié, c'est exactement.
C'est la NFCS que je connais par cœur. Mais pour autant, je trouve que non, faut pas diminuer. En fait, il y a pas de victoire facile en NFL. C'est une des ligues les plus homogènes qui soit. Alors oui, t'as loupé ta première mi-temps. Oui, t'es mené 20-0 puis 27-7, 28-7 même, au milieu de troisième quart. Oui, tout le monde les voyait morts. Ben non, ils ont eu la force mentale de vraiment se recalibrer et d'y aller tous ensemble. L'attaque a mieux joué, même bien mieux joué. La défense a fait les plays qu'il fallait. Et ils ont quand même fait le plus gros comeback de l'histoire des Giants depuis 49, je crois, j'avais lu ça. Bon, bah, faut pas diminuer ce genre d'exploit. Ça reste exceptionnel. Tu vois, évidemment, j'ai foutu mon résumé à la poubelle, hein, parce que vous vous doutez bien qu'il était écrit dès le début de troisième quart-temps. J'avais écrit « Tout est acheté, sauf Daniel Jones ». Bah, finalement, ils ont fait mieux que ça. Et Daniel Jones, qui avait été valeureux en première mi-temps, alors que tous les éléments étaient contre lui... son interception n'est pas pour lui, hein, elle est pour Saquon Barkley 100%. Et ben il a été magistral en fin de match. Bon voilà, cette équipe, elle était au fond du trou. Ils se sont pris 60-0 en 6 cartons et puis finalement ils s'en sortent avec une victoire. Bah écoute, bravo, victoire au mental et il faut savoir les savourer aussi.
Victoire au mental pour les Giants. En face, il y avait Joshua Dobbs, 21 sur 31, 228 yards. Un touchdown, zéro interception. Ils sont quand même vaillants, j'avais envie de dire. Ils sont intéressants dans les tranchées. Il y a 5,2 yards par course, aucun sac concédé en attaque. Leur défense est plutôt agressive. Ils sont quand même plutôt vaillants, les Cardinals, mine de rien.
Oh, ils ont même été séduisants pendant trois quarts temps. On peut aller jusque-là. Dobbs a été bon, parce qu'il marque également sur une très longue course où il nous a fait du Cam Newton. Là, il a joué au tracteur. James Conner... Bah écoute, c'était vraiment le bulldozer en début de match. Enfin, globalement, tout allait bien. Même Zach Ertz a montré des signes de vie. Donc tout allait bien. Bon, après, je pense que à la fin, quand ça a craqué dans tous les sens. Mais en même temps, il faut être aussi tolérant avec une équipe qui est limitée au niveau de talent dans l'effectif. Mais ils se sont battus. Ils ont cru avoir la victoire, finalement ils l'ont pas, mais honnêtement c'est beaucoup mieux que ce que j'imaginais avant la saison.
T'imagines, on pense aux Giants qui cherchent un quarterback, eux ils ont grappillé Josh Dobbs comme ça à l'arrache au moment des dernières coupes dans les effectifs.
Aux Giants ou aux Jets, tu veux dire?
Aux Jets, pardon, oui. Ouais, j'ai dit quoi?
Giants.
Ils l'ont récupéré contre quoi déjà?
Cinquième tour.
Voilà, je suis en train de vérifier. C'était un échange, ouais, contre un cinquième tour, mais sort de nulle part, hein, Josh Dobbs.
Ouais, après, c'est pas parce qu'il a fait un bon match qu'on va s'enflammer. Il était nul en semaine 1. Calmos, quoi. Mais.
Très bien.
Mais bon, c'est bien pour eux. Et ils ont la chance d'affronter les Cowboys la semaine prochaine. Donc.
Ouch. Rams 23, 49ers 30. Les Rams qui étaient encore dans le coup, mais cette fois ils ont dû s'incliner. LA a mené 17-10 avant de se faire rejoindre juste avant la pause. Matthew Stafford a intercepté deux fois en deuxième mi-temps. Les Niners qui ont creusé l'écart et grâce à un touchdown de Deebo Samuel. Agréable surprise quand même du début de saison des Rams. À l'image de Puka Nakua, va falloir apprendre à le dire correctement parce que là ça ne s'arrête plus. 15 réceptions, 147 yards. Il a 25 réceptions sur deux matchs. Record pour deux premiers matchs en NFL, si j'ai bien compris. C'est la stat qui est passée partout dans les médias américains. Ils sont surprenants quand même ces Rams, Victor, parce qu'ils étaient dans l'égalisation juste avant la pause, leur fait un peu mal, mais derrière ça lâche.
Oui, non, très 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 bien. Même Matthew Stafford, il a été très bon. Alors en fin de match, il prend un peu plus de risques parce qu'il faut Enfin, à un moment, il faut un peu des miracles pour gagner contre ces Niners si bien coachés. Donc,
ouais, il lance 55 ballons quand même, ce qui est un peu beaucoup probablement pour Stafford à ce stade de sa carrière.
Il se fait punir sur les interceptions, mais ça n'enlève rien à un bon match. Mais tout était bien, ils étaient bien coachés. Kyren Williams au niveau du jeu de course, la ligne offensive a répondu. Nakua, c'est juste le clone de Cooper Kupp, hein. C'est la même utilisation, les mêmes tracés, les mêmes tout ce que tu veux. C'est assez incroyable. Même Tutu Atwell fait aussi son travail. Enfin, globalement, c'est une équipe qui a été bonne. Après, là encore, c'est un peu comme d'autres matchs là, qu'on a vus. Bah, l'équipe la plus talentueuse a emporté à la fin. Quoi.
Quasiment 400 yards gagnés, encore une fois, à mettre au crédit des Rams contre une belle défense des 49ers. En face, Christian McCaffrey continue d'être létal, 116 yards au sol et un touchdown. Il a aussi pris 3 réceptions pour 19 yards. Brock Purdy n'était pas dans un grand match. Par contre, 17 sur 25, 206 yards. Il y a pas mal d'imprécisions, d'occasions manquées. On ne s'inquiète pas. Je sais que c'est un des joueurs les plus surveillés.
Alors, oui, il fait un mauvais match dans le sens où il y a quand même 3 passes longues qui, s'il les ajuste, il y a touchdown. Donc, c'est vrai que toutes les passes non complétées ne sont pas égales par ailleurs. Là, il en loupe 3 qui donnent des touchdowns. Après, bon, voilà, moi, Dieu sait que je suis plutôt dur hein, avec Purdy, j'y crois pas et je l'ai dit plusieurs fois. Mais bon, pour l'instant, il a fait que des bons matchs en carrière. Si c'est ça, entre guillemets, son plus bas, 17 sur 25, 206 yards et pas d'erreur, bon, y a pire, quoi. Je veux dire, c'est même peut-être plutôt rassurant. Il n'a pas été incroyable, mais bon, en même temps, tu avais Christian McCaffrey qui était juste ingérable.
Comme depuis le début de la saison, en tout cas sur les deux premiers matchs. Broncos 33, Commanders 35. Les Commanders sont à 2 victoires et 0 défaite. Oui, messieurs, dames. Ça a mal commencé. Ils étaient très poussifs en première mi-temps. Ils se sont retrouvés menés 21 à 3. Et puis Sam Howell s'est mis à distribuer le ballon. 27 sur 39, 299 yards. 2 touchdowns, aucune interception. Il a couru aussi 2 fois pour 13 yards. Il a marqué des points, Sam Howell, sur ce match, Victor. Et là, il ressemblait à un quarterback titulaire.
Oui. Alors attendons encore, mais oui, c'était mieux, il a bien été épaulé par Brian Robinson, mais il a bien distribué, il a profité aussi un peu des errances des Broncos. C'est sûr que s'il y avait encore des gens qui étaient des croyants des Broncos de Sean Payton, Sam Howell a tout fait pour enterrer les espoirs. Écoute, il a fait un bon match. Ça demande confirmation, mais ça reste un bon match.
Ouais, c'est plutôt un bon match. C'est la première fois depuis 1950 qu'un quarterback de Washington gagne ses 3 premiers matchs en tant que titulaire.
Oui, bon. Il n'y en avait que 2 qui comptent, mais soit.
Ça prouve quand même le défilé de quarterback qu'il y a eu dans cette...
Oui, aussi, mais...
dans cette franchise. Leur défense aux Commanders s'est enfin montrée à la hauteur. Oui. 7 sacs, c'est ça aussi qui les remet dans le match. C'était le scénario idéal. Pour une fois, on a eu tout ce qu'on attendait de Washington, en fait, j'ai l'impression, non ?
Oui, et puis cerise sur le gâteau, on a eu un sac et demi de Chase Young, quoi. Peut-être miracle. Enfin le retour.
Miracle. Oui, alors là, on ne va pas trop compter là-dessus.
Eh, ça a quand même été un rookie d'année, un numéro de draft. Enfin, je veux dire, il a été défensif rookie de l'année. Hein, donc, s'il est débarrassé de ses problèmes de pépins physiques, pourquoi pas ? Non, globalement, c'est la ligne défensive comme on l'aime, quoi. Tout le monde a participé. Darren Payne, il a son sac. Montez Sweat, il doit l'avoir aussi. Enfin, à peu près tout le monde a participé. Donc non, globalement, performant. En fait, paradoxalement, ils ont pris 33 points, quand même. Donc, il y a toujours ce problème de couverture aérienne. Ça reste toujours problématique. Mais en fait, sur ce match, ils prennent beaucoup de points rapidement. Et c'est en deuxième mi-temps où tu as vu vraiment la défense des Commanders comme on l'attend. Et bizarrement, dès qu'elle a commencé à bien jouer, tout était plus facile pour Washington.
L'inverse pour les Broncos, des belles passes en profondeur au début, Russell Wilson en pleine confiance. Et puis, plus rien, coupure de courant. Russell Wilson, il est... Si mon menu veut bien se mettre sur mon ordinateur, 18 sur 32, 308 yards, 3 touchdowns, une interception. Qu'est-ce qui s'est passé encore pour que tout s'arrête comme ça, la panne de Denver ?
Et encore, ils ont la chance de d'égaliser dans ce match grâce à un Ave Maria un peu miraculeux qui rebondit dans quatre mains avant d'arriver sur le receveur des Broncos, hein, parce que sinon c'était encore pire comptablement. Bon, certains diront qu'il y avait faute sur la conversion à deux points, mais bon, les Broncos ne méritaient pas de gagner ce match. Non, écoute, Wilson, il a fait une très bonne première mi-temps et puis il est retombé dans ses travers.
On dirait qu'il n'y a pas de juste milieu entre jeu en profondeur et puis plus rien.
Bah, tu sais, il était un peu la caricature du Wilson. Il y a eu un ou deux ans comme ça à Seattle où c'était je fais 30 yards de derrière la ligne de scrimmage pour trouver en déséquilibre sur un pied mon receveur à 35 yards et tout le monde s'extasie en disant que je suis génial. Mais en fait, quand tu regardes les 35 actions, tu te dis qu'il y en a au moins 20 qui gèrent mal. Et ben là, c'est un peu ça, quoi. Et moi, je trouve que c'est, enfin, ce Wilson-là, je suis désolé, mais les gens disent souvent, ah, au Broncos, il a disparu et tout. Enfin, ce Wilson, en tout cas, de cette année, qui comptablement fait ses 3 touchdowns et tout, on l'a déjà vu à Seattle, hein, ça arrive. Il a des années comme ça où il veut jouer au héros. Et je suis un peu étonné que, à mon avis, Sean Payton doit pas être content. Connaissant le bonhomme, surtout qu'il a coaché un mec un peu plus conservateur que s'appelait Drew Brees. Connaissant le bonhomme, il doit pas être très content de ce qui s'est passé. Puis comptablement, 0-2, t'as quand même échangé quoi? 3 premiers tours de draft pour Wilson et tout ce que t'as pour l'instant, c'est une saison négative et une saison en passe de devenir négative.
C'est une saison qui commence pas très bien, en tout cas, pour cette équipe. Mais oui, on reste un peu, je suis d'accord avec toi, il existait déjà ce Wilson, en effet. Est-ce qu'il était mieux encadré? Est-ce que l'équipe autour était meilleure? Je sais pas, c'est dur de mettre le doigt sur ce qui se passe. Après, il y a eu une bonne première mi-temps. Est-ce que ce sera un peu mieux la semaine d'après? Mais oui, pour l'instant, Sean Payton, c'est pas la solution miracle, en tout cas. Les Panthers 17, Saints 20, c'était le deuxième match de lundi soir. Et les Saints qui sont à 2 victoires, 0 défaite. De manière un peu poussive quand même, parce que ça n'a pas été facile. Il y a eu un petit éclair de Chris Olave qui a débloqué un peu un des drives sur lesquels ils sont allés chercher un touchdown. Mais ça reste une équipe qui se cherche, Victor.
Oui. Je vais appliquer un peu la logique que j'applique aux Eagles pour les Saints, c'est qu'au moins ils sont à 2-0. Et que ce qui est le plus important et la seule chose qui compte dans le foot américain, c'est de gagner des matchs. Mais c'est sûr qu'il y a encore du boulot. Après, d'un autre côté, c'est presque rassurant de se dire que t'arrives à gagner des matchs en étant à 50%. Ça veut dire que le jour où t'es à 100%, tu deviens très bon. Mais c'est vrai qu'autant la défense a fait de travail. Ça, c'est d'autres matchs du lundi. C'est comme Steelers-Browns. Hein, fallait mieux aimer les défenses que les attaques. La défense a tenu le coup. Et en effet, l'attaque, elle a vécu un peu sur des éclairs. Alors, il y a une passe, tu disais, pour Olave, qui est certainement une des réceptions de l'année. T'as une grosse passe aussi pour Rashid Shaheed pour la deuxième semaine d'affilée qui débloque un peu aussi le truc. Mais bon, oui, c'était poussif.
Tu l'as dit, après ils gagnent en défense, hein. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment mis Bryce Young sous pression. Il y a 4 sacks, il y a une attaque de Carolina qui a du mal à faire quoi que ce soit. Il y a Adam Thielen qui sort de là comme il peut, mais c'est avant tout une victoire défensive.
Oui, je pense qu'on peut le dire. La défense a fait le boulot et c'était plutôt bien pour eux. Là-dessus ils peuvent être très contents. Ils ont leur base, c'est la défense, faut améliorer l'attaque. Honnêtement, je me fais pas trop de soucis. Derek Carr, il va trouver son rythme.
Et il y a Alvin Kamara qui va revenir à un moment aussi, hein, parce
Oui.
Il leur manque Alvin Kamara. Là, il bricole avec Tyson Hill qui a 9 courses pour 75 yards. Ça reste quand même un des ovnis de ces 10 dernières années.
Ouais, et puis il y a Jamal Williams qui se blesse. Donc, du coup, c'est Tony Jones qui sort du practice squad pour venir épauler. Bon, oui, ça bricole, ça c'est sûr, hein, mais à côté de ça, ça bricole au niveau de jeu de course, parce que quand même au niveau des receveurs, Chris Olave, Rashid Shaheed, Michael Thomas, c'est pas tout mauvais, hein.
Oui, non.
Je veux dire, c'est donc voilà, je pense que c'est une équipe, c'était pas très beau, mais ils finissent à 2-0 et ils vont continuer à progresser.
Bryce Young, le bilan de ce deuxième match, 22-33, 153 yards, un touchdown.
Compliqué, pas aidé par sa ligne, lui non plus. Pourtant, il y a eu des investissements sur cette ligne. Il y a eu Ikem Ekwonu qui était un premier tour. Il y a Yamoton, etc. Mais pas aidé. Le jeu de course, bah pareil, un peu pas aidé par la ligne et par Miles Sanders qui fait son crabe. Hein, ça lui arrive de temps en temps. au lieu de courir tout droit, il court droite-gauche parce qu'il pense qu'il est Sean McCoy. Et après, là, par contre, tu vois, au niveau des receveurs, je suis désolé, mais ton receveur numéro un, c'est Adam Thielen. Hein. J'aime bien, mais il a 48 ans, quoi. Donc, il y a un moment, non, c'est une équipe limitée, donc Young essaye de faire au mieux, mais pour l'instant, c'est pas terrible. Tu sens qu'il n'est pas en confiance et il n'est pas virevoltant comme il a pu l'être dans d'autres périodes.
On passe d'un rookie à deux autres parce qu'on termine avec Texans 20, Colts 31. C'était l'affrontement entre CJ Stroud et Anthony Richardson, les deux quarterbacks sélectionnés dans le top 5 après Bryce Young. Ça a donné Minshew Mania, en fait. Je parle de ces deux-là, mais Minshew Mania de retour. Anthony Richardson sorti en deuxième quart à cause d'une commotion cérébrale. Gardner Minshew qui est rentré en jeu pour mener son équipe à la victoire. Minshew qui a 19 sur 23, 171 yards, un touchdown. Les Colts menaient 28 à 10 à la pause. Ils ont tenu ensuite d'abord la sortie de Richardson, on va parler de ça parce que c'était un des rookies attraction. Il a marqué deux fois au sol, il prend une commotion cérébrale derrière. Est-ce que c'est tenable ce style de jeu? J'ai l'impression qu'on demande ça souvent pour des rookies quarterback très physiques, très coureurs.
Écoute, Newton a eu une carrière, Hurts a une carrière, Fields a une carrière. Je vois pas pourquoi on se demande toujours si c'est tenable.
Parce que ça fait deux semaines et qu'il a une commotion cérébrale.
Oui, pas de chance, mais il y a des mecs qui ont pas des gros chocs et qui ont une commotion cérébrale aussi. Donc, ça arrive. En plus, franchement, la commotion cérébrale, il l'a pas sur un gros choc. Il l'a juste sur un petit plaquage où, en fait, il retombe mal et du coup, sa tête tape, à l'arrière. Mais c'est plus, franchement, cette commotion-là, c'est plus un coup de pas de chance qu'une action violente. Mais le pire, c'est qu'il était plutôt très bon dans un style très Giants 2021, quoi. Le sol pour le sol pour le sol, mais ça marchait plutôt bien parce qu'il menait 14-0, si je dis pas de bêtises. Donc, écoute, c'était plutôt pas mal. C'est dommage qu'il soit sorti parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il a un beau début de saison et j'espère que ce sera la semaine prochaine. Même si c'est jamais gagné avec une commotion.
Ouais, ça risque une semaine maintenant, c'est toujours incertain.
C'est entre 6 et 10 jours en général.
Gros changement de style quand même, parce que Gardner Minshew, c'est pas du tout le même quarterback.
Non.
Mine de rien, c'est quand même un des meilleurs quarterbacks remplaçants de la NFL.
Bah, bien sûr.
Pour moi, c'est le nouveau Colt McCoy.
Ah, c'est mieux.
C'est le type qui va être. Et je serais en effet tenté de dire que c'est un peu mieux. Honnêtement, vu le niveau de ce qu'il y a dans certaines franchises, j'ai du mal à comprendre depuis deux ans pourquoi Gardner Minshew n'est pas titulaire nulle part. Avec les irrégularités qui vont avec, je ne dis pas qu'il va te gagner des titres, etc. Mais c'est le quarterback moyen par excellence qui pourrait vivoter.
Après, il n'était pas mauvais à Jacksonville. Il a été quand même assez mauvais l'année dernière à Philadelphie.
Est-ce que tu préfères avoir lui que Desmond Ridder? Même Ryan Tannehill fin de carrière.
Certes, mais tu vois, tu dis Desmond Ridder, en quarterback remplaçant, je préfère avoir Tyler Heineke que Gardner Minshew.
Oui, non, je veux dire.
Mais c'est débattable. C'est débattable.
Je veux dire, est-ce que tu préfères pas l'avoir titulaire même?
Non, mais je comprends le point, mais après voilà, il a fait un bon match.
Entre nous, c'est le mec qu'il faut au Jet aujourd'hui.
C'est vrai que s'il arrive. Avec son camping-car, ses lunettes et sa
incroyable.
Grosse chaîne sur le MetLife Stadium, c'est vrai qu'il y aurait de la gueule. Je dois avouer que il y a un potentiel médiatique très sympa. C'est vrai.
C'est incroyable. On a commencé l'émission par les Jets. On peut finir avec les Jets. Mais excuse-moi, Minshew. Aux Jets, tu vois, il fait. Il y a une époque, Joakim Noah en NBA disait Hollywood as hell, tu sais, pour les Lakers. Il disait ils sont Hollywood à fond. Bon, là, il serait Broadway à fond, quoi, tu vois. Tu fais venir Gardner Minshew, sa stache, il ferait des trucs incroyables. Il serait meilleur pote de John Amat. Enfin, ce serait incroyable. Et il est meilleur que Zach Wilson tous les jours, là, par contre. Hein, donc,
Et il entrerait au stade avec le fameux manteau à fourrure de John Amat, tu sais.
Mais oui.
La signature, quoi.
Et sans rien en dessous.
Sans rien en dessous, bah non, parce que on est
d'accord. Non, juste mais... des lunettes de soleil. Ah non, mais moi, Minshew au Jets, faites le trade. Quoi. En fait, j'étais déçu de la blessure de Richardson, non seulement parce que je souhaite pas de mal à Richardson, mais en plus parce que je me disais, ça élimine la possibilité que Minshew parte aux Jets, parce qu'ils vont devoir l'utiliser pendant une semaine ou deux. Mm-hmm. Donc, je comprends pas, ouais, pourquoi il a pas une petite chance, encore une fois, d'être titulaire. Je dis pas d'aller loin, mais d'être titulaire. En face, CJ Stroud, 30 sur 47, 380. 4 yards, 2 touchdowns, c'est quand même. Alors, il n'a pas de. En plus, sous pression, parce que des fois, on dit ils ne seront pas aidés, etc. Il sort quand même des stats tonitruantes en prenant 6 sacks, 9 quarterback hits, et en n'ayant pas non plus un groupe de receveurs monstrueux, mais il les fait briller. Nico Collins a 146 yards, Robert Woods prend 6 ballons, il revit. Tank Dell prend 7 réceptions. CJ Stroud, ça ressemble quand même au meilleur quarterback rookie de l'année pour l'instant. Après 2 matchs, évidemment.
On va voir, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un très bon deuxième match face à une défense qui lui a laissé des espaces, mais bon, il faut les prendre hein. Quand t'es rookie, c'est pas évident la prise de risque. Il a fait un très bon match, comme tu l'as dit, et ce duo de jeunes receveurs Nico Collins et Nathaniel Dell, enfin qui maintenant s'appelle Tank Dell, sont très bons aussi. En tout cas, de toute façon, c'est l'objectif de la saison de Houston, c'est voir les jeunes progresser, c'est voir les jeunes prendre de plus en plus de place. Après, il faudra, une fois encore, mais j'ai l'impression que ça fait 20 ans à Houston, mais il va falloir régler ce problème de ligne offensive. Parce que c'est plus possible. Bon, après, Laremy Tunsil était out, donc ça aide pas, hein, quand ton tackle gauche et meilleur joueur est out. Kenyon Green, je crois qu'il est toujours sur la liste des blessés, hein, lui qui était un premier tour de draft. Si j'ai pas de bêtises, Scruggs aussi est sur la ligne des blessés. Ah non, quoi, Green, il a peut-être joué, j'ai un doute. Mais, ah non, c'est Kendrick Green qui a joué. Donc voilà, après, tout le reste, même Shaq Mason qui est arrivé des Patriots, Gros Scott et tout, bah, il a été plutôt décevant. Enfin, globalement, c'est un peu le traitement David Carr, si tu veux, ou Matt Schaub, ils ont tous eu ce traitement-là. C'est, il y a un moment, faut que tu sois aidé par ta ligne, sinon tu vas finir bouffé, quoi.
Et il a, alors je vous dis, il a fait un super match, mais en effet, hein, il y a eu quelques imprécisions. Et s'ils perdent, c'est aussi parce qu'il y a eu ces imprécisions qui sont à 1 sur 4 quand ils sont dans la zone rouge. Donc en effet, il y a encore du chantier. J'étais en train de vérifier parce que j'avais vu passer la stat et je situais pas le niveau de troll parce que j'ai pas les stats de tout le monde en tête. J'avais vu CJ Stroud a désormais plus de matchs à 300 yards à la passe que Justin Fields.
Ouais.
Et en fait, je me disais, il a fait les deux premiers, mais non, c'est juste un match. En fait, Justin Fields en 29 matchs n'a jamais réussi une seule fois à passer pour plus de 300 yards dans un match.
Ouais. Ouais.
Wow. On va se quitter sur cette stat terrible que vous allez pouvoir méditer. 29 matchs, aucune fois à plus de 300 yards pour Justin Fields. Si CJ Stroud l'a réussi à son deuxième match, c'est... oui, ça fait mal. Je pensais qu'il en avait fait au moins un, tu vois, et que Stroud avait réussi les deux premiers, mais non, c'est 1-0. Voilà, c'est 1-0 et visiblement l'écart pourrait se creuser dans les semaines à venir. C'est comme ça qu'on termine le débrief de la deuxième semaine NFL. On vous remercie de nous écouter, on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. Je crois que j'ai fait les tipeurs du mois d'août dans l'émission de la semaine dernière. Donc je vais faire.
T'avais fait septembre aussi, non ?
Je crois pas que j'ai fait septembre.
Moi, il me semblait que t'avais tout fait, mais.
Ah, j'avais tout fait ?
Bah après, dans le doute, tu peux refaire septembre. Hein.
Vas-y, je vais refaire septembre. Masmejean Lover, parce que j'adore ce pseudo. Soif99, Nicolas, Xavier, Joshua Jali, Man, Rémi Guillotin, Thibaut, Marie, Tab63, Chatillo, Massaropi, Pogrinjek, LT56, Matt.V, Octave Go, Ririk Le Géant, je suis en train de vérifier, Loïc B, Maxime BR, Baptiste, Olivier, Flavien Vallée, Mavs41, Ferrure, Arnott, Quentin, Drain, Vincent Simon, Mathieu, Manu NFL 18, Alicia, Guilin, Fabrice, Loïc, et on a fait le tour du mois de septembre. Voilà. Comme ça, je suis à jour. Merci encore une fois. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez nous soutenir, de laisser une évaluation sur les stores, des étoiles, des commentaires, tout ça, si possible positif, hein, c'est toujours plus apprécié. Et évidemment, je le redis pour Tipeee, alors il y a des compensations, il y a des nouveaux porte-clés depuis quelques jours qui sont là, des beaux porte-clés en tissu brodé que j'aime bien. Et évidemment, n'hésitez pas aussi, sans contrepartie, des fois à laisser des types réguliers. Il y a beaucoup de types ponctuels maintenant avec les contreparties qu'on met, mais n'hésitez pas, les types réguliers aide beaucoup aussi à avoir une idée pour nous de ce qui nous attend à l'avenir, on va dire. Donc même 1 € ou 2 par mois, c'est évidemment hyper apprécié, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez, si vous le pouvez, évidemment, et si vous ne pouvez pas, on vous en veut évidemment. évidemment pas. C'est le but, c'est ceux qui peuvent. Il n'y a pas de souci. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TDActu en entier, TDActu.com pour toute l'actualité. Le rendez-vous demain, c'est la preview et c'est Victor et Jean-Michel.
Raoul. Ça va être moi et Jean-Michel pendant 2 jours d'affilée.
Vous faites preview puis draft.
On fait preview puis draft. Donc.
Très bien. Et bien voilà, vous retrouvez tout ce petit monde. Donc Victor à l'animation demain.
Exactement.
C'est ça, tu seras le chef.
Ma grande première animation, en tout cas, de ce podcast.
Et voilà, c'est parti. Il y a des promotions de partout. C'est une année de mouvement. Hein. On a des équipes très très fluides. Là, on envoie des gens. Il y a des gens à M6. Après, du coup, quelqu'un d'autre qui fait le fauteuil, quelqu'un d'autre qui fait l'émission, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je me suis jamais autant cassé la tête sur les plannings que cette année.
Ça va, ça fait 3 ans que je m'entraîne sur un autre podcast. Ça devrait aller.
Mais si vous y êtes, c'est que je vous fais confiance. Hein. Il y a pas de souci. C'est juste que je galère à faire les plannings, mais on s'en sort. Et parce que moi, je ferai mon retour au fauteuil cette semaine. Il faut savoir parce que je l'ai dit au début de l'émission, Patriots Jets sur Sisplay. À la fin de la semaine, c'est Lucas Vola qui prendra ma place et Grégory Richard qui sera toujours dans le rôle de consultant. Voilà, vous avez tout le programme, évidemment, on en reparlera au fil de la semaine et vous nous suivez tout ça sur tdactu.com. Merci encore de nous avoir suivis, merci encore Victor Roulier pour toutes ces analyses toujours aussi pertinentes. Merci à tous, ciao ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocasse Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en requin.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.